بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chefs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre ces programmes dont l'objectif est d'étudier les noms d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi étudier les noms d'Allah Azza wa Jal? C'est quelque chose qui est essentiel pour développer al-imanu billah. Nous disons tous que amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhiri wa al-qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala wa al-ba'd al-maut. Mais la première branche des six branches de la foi, amantu billah, c'est la branche la plus importante. Et en fonction de notre connaissance à propos de notre Seigneur, par rapport à ce qu'il nous a révélé, ben on va développer iman billah. Par rapport à notre connaissance, le peu de connaissance que l'homme peut développer, mais il se doit de faire les efforts pour connaître son Seigneur, mais c'est ce qui va renforcer sa foi. C'est ce qui va donner de la force à ses bonnes actions. C'est ce qui va lui donner la belle patience dans les épreuves. Et c'est ce qui lui permettra également de résister face aux tentations de Shaitan et à son nafs. Donc connaître Allah Azza wa Jal par le biais de la révélation Asma'ihi wa Sifatihi, c'est un devoir pour chaque mu'min. Parce que c'est un devoir de développer sa relation avec Allah Azza wa Jal. Donc, le nom qu'on avait vu récemment, c'est Al-Azama, qu'Allah est Azim, Allah est très grand, Allah est sublime. On avait rappelé que le sifat, le nom Azim, ça fait partie donc des noms, et de ces noms découle cette qualité d'Allah Azza wa Jal qui montre la perfection. Quand on parle de la grandeur d'Allah, Allah est grand, Allah est magnifique, Allah est parfait dans son être, dans ses noms, dans ses attributs, dans ses décisions, dans sa création, dans ce qu'il nous prédestine, dans ce qu'il a écrit pour chacun d'entre nous. Allah Azza wa Jal est également azim, il est majestueux, il est sublime. On avait vu également que le croyant se doit de réaliser que an-nabiyadihi mulkul alam al-alawi was-sufli, que dans les mains d'Allah Azza wa Jal, il y a la royauté du monde terrestre, mais également et surtout du monde, tout ce qui est au-dessus des cieux. Et on a eu l'occasion de développer certaines descriptions des anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal, des anges qui sont aux frontières des cieux, des anges qui ont été, depuis leur création, ils sont en sijda, en prosternation, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au qiyam. Et tout ça, ce mulk, ça fait partie du mulk d'Allah Azza wa Jal. Étudiez, essayez de voir les hadiths, les descriptions à propos de la création de ce dunya, mais également des réalités de l'au-delà, tout ce qui est en rapport avec Al-Ghaib, l'invisible, ça nous donne une idée, un aperçu de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Tout comme on avait essayé de comparer, lorsqu'on avait étudié Rahman, Rahim, l'amour qu'une maman a pour son bébé, d'accord, et l'ensemble de l'amour que les êtres humains ont les uns pour les autres, ça découle d'une rahma d'Allah Azza wa Jal de ce dunya. Maintenant imaginez les 99% de la rahma, de la clémence qu'Allah a réservé pour les ahlés la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ça c'est le jour des comptes. Ça nous donne une idée, uniquement un aperçu. Et donc là quand on étudie, qu'on appelle at-tadabbur, quand on médite sur la création d'Allah, ce sont des choses qu'on peut faire par le visuel, mais concernant l'au-delà, on ne peut pas contempler, bien sûr. On doit se retourner vers les textes qui décrivent le akhira, qui décrivent les étapes de l'au-delà. Il suffit, si un jour vous avez l'occasion, relisez un peu la sirat concernant al-Isra ou al-Mi'raj. Il ne faut pas attendre juste 27 Rajab pour devenir le pieux des 27 Rajab et des 15 Sha'ban pour ouvrir les livres. Et là, on s'y intéresse. Là, on devient tout d'un coup pieux. Et puis le lendemain, on redevient... Allah Musta'an. Si on lit... Subhanallah, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a eu dans notre din, qu'on a notre prophète qui a été invité par Allah Azza wa Jal pour se rendre auprès de son trône. Et ce prophète décrit les scènes de l'au-delà, des scènes qu'aucun être humain n'a pu voir. Et notre prophète Assalam nous explique le Sidratul Muntaha, le Baytul Ma'mour et la grandeur des Malaïka, les anges qui inscrivent les ordres d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand le croyant, il essaie d'approfondir sa connaissance religieuse par le biais donc du ilm, des hadiths, tout ce qui découle des hadiths, il se rend compte qu'Allah est azim, il se rend compte qu'Allah est grand et magnifique. Et dites-moi, quand une personne a intégré la grandeur d'Allah, même si on ne l'intégrera pas réellement, mais quand on a une véritable conception, on va dire, de notre Seigneur, on réalise vraiment sa grandeur, et je pèse le mot réaliser, assurément il y aura un changement dans la qualité de nos prosternations. Assurément, il y aura un changement dans la qualité de nos doigts, de nos invocations. Assurément, lorsqu'on va dire que je fais confiance en Allah, ça va être une confiance inébranlable, vraiment ferme. Parce qu'on sait qu'on est en train de s'appuyer, on est en train de faire confiance sur Al-Azim. Celui qui, dans ses mains, il y a la royauté des cieux, de la terre, de Al-Alamin, de l'univers. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, on avait vu, et ça rejoint... Ça peut faire un lien avec tous les autres noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, que si l'humanité se réunissait avec leur intelligence, avec les plus grands savants, quelles que soient les époques, pour essayer, donc unir leurs forces et leurs connaissances, pour essayer de décrire une qualité d'Allah Azza wa Jal, mais personne ne serait capable de décrire fidèlement une qualité d'Allah Azza wa Jal, tellement c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais Allah, dans sa clémence, nous a donné une partie de la révélation qui nous donne un aperçu de Al-Sami', Al-Basir, Al-Rahman, Al-Rahim et là, Al-Azim. Ça, c'était le quatrième point qu'on avait fait avant cette longue interruption. Cinquième point, on avait vu, là on revient un petit peu vers la contemplation, que le croyant intelligent, c'est celui qui voit la création avec sa foi. Et lorsqu'on voit la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal, on avait cité quelques exemples concernant les montagnes, les volcans et tout ça, mais également le monde qui est infiniment petit, le renouvellement des cellules, tout ce qui a en rapport avec la biologie. On avait vu le principe de, le processus de la cicatrisation. On a parlé également de l'état de stress. Quand quelqu'un est stressé, les vaisseaux sanguins se resserrent afin que s'il y a une blessure, il n'y a pas une forte hémorragie. Tout ça, c'est ce que les scientifiques ont découvert. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se passent en nous. Et ça découle de la grandeur d'Allah, de la perfection d'Allah, Azza wa Jal. Le croyant doit avancer, doit contempler, doit comprendre, doit entrer en contact avec le monde autour de lui et de cette façon réaliser, voir, entrevoir la manifestation de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Sixième point qu'on avait cité, quand on a un aperçu de l'étendue de la création d'Allah de ce dunya, l'étendue de la création d'Allah dans le akhirah, le monde de l'invisible, maintenant on réalise que le jour de Qiyama, Allah Azza wa Jal va tout détruire. Il va ordonner et tout sera détruit. Et on avait commenté le verset وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبُضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Comment Allah Azza wa Jal va plier les cieux et la terre et Allah va s'en saisir. C'est pour qu'on réalise que autant la création elle est gigantesque, c'est comme si qu'elle est infinie. Quand on parle de la terre et qu'on imagine que autour de la terre il y a d'autres planètes, on est dans un système solaire et qu'il y a plus de systèmes solaires qu'on n'arrête pas d'en découvrir, on a l'impression que l'espace est infini, mais tout ça n'arrive même pas au premier ciel et on n'imagine même pas qu'est-ce qu'il y a au second et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal va plier toute la création le jour de la résurrection et ça nous donne une idée de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'était le sixième point. Septième point, on avait essayé de décrire ou de parler du Kursi, et je vous invite à lire le tafsir de Ayatul Kursi que nous mémorisons, Ayatul Kursi que nous devons absolument lire le matin et que nous devons absolument lire après chaque salat, nous devons absolument lire le soir avant de nous coucher et souffler sur nous-mêmes et souffler sur nos enfants pour qu'ils aient la protection d'Allah Azza wa Jal, souffler sur les personnes qui nous sont chères. Parce que ce sont des versets magnifiques. Lisez le tafsir pour qu'on ait une idée de la grandeur du trône d'Allah Azza wa Jal. Donc ça aussi, en méditant sur ce genre de création qui est, subhanallah, qui est un niveau qui nous dépasse, qu'on n'arrive même pas à imaginer, ça nous donne un aperçu qu'Allah est azim, Allah est grand, Allah est magnifique. Point suivant, ça je ne suis pas sûr qu'on avait parlé de ça, Anna Nawas l'ibad biyadihi, que le destin de chaque créature est dans les mains d'Allah. Autant on avait dit que le rizq, la subsistance de chaque créature est dans les mains d'Allah. Et ça, uniquement en méditant sur le fait que la subsistance de chaque être humain, de chaque djinn, de chaque animal, quel que soit l'insecte, même ceux qui sont sous terre, subhanallah, ou ces plantons dans les mains, leur rizq, leur subsistance a été écrit par Allah Azza wa Jal. C'est comme si le cerveau bloque, quoi. On n'arrive pas à concevoir ce qui nous paraît être infini. Mais ça, pour Allah Rabbul Izzah, c'est strictement rien. Là, tout ce qui arrive à l'être humain, le taqdir, le futur, tout ce qui se déroule, tout ce qui se passe, tout ce que tu obtiens, tout ce que tu ne peux pas obtenir, tout ce qui t'est prédestiné, tout ce qui ne t'est pas prédestiné, des décisions que tu prends, l'orientation que tu donnes à ta vie, la destination que tu prends, le lieu géographique où tu vas te rendre dans les jours qui viennent, tout ça, ça dépend de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Aucune créature n'avance sans l'ordre et l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Même la feuille, une feuille, là on est soi-disant, on doit être en automne, là, logiquement, on démarre l'automne, une feuille morte qui tombe, il n'y a pas le verset stipule qu'il n'y a pas une feuille, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre, quel que soit l'endroit au monde, illa ya'lamuha, sans qu'Allah Rabbul Izzah ait une connaissance parfaite de cela. Tout ça, ça nous donne une idée de la grandeur d'Allah. Et on a besoin d'intégrer la grandeur d'Allah pour renforcer notre relation avec Allah Azza wa Jal, encore une fois on le répète, pour renforcer la qualité de nos prosternations, de nos a'mal, de nos ibadah, de nos dua, de notre patience et de la capacité à s'en remettre à lui dans les difficultés. Quand une personne vit des périodes difficiles, il sait qu'il s'en remet au azim, à celui qui est gigantesque, c'est moi qui dis gigantesque, qui est sublime, qui est magnifique, celui qui détient toutes les décisions, véritablement, on se sent en confiance. On sait qu'on est entre eux de bonnes mains. هذا. Autre point, وَمِنْ عَظَمَتِهِ أَنَّ الْأَبْصَارَ تَرَاهُ وَلَا تُدْرِكُهُ. Que jamais une créature ne pourra réellement contempler la grandeur et la beauté d'Allah Azza wa Jal. L'homme pourra percevoir la grandeur et la beauté d'Allah Rabbul Izzah sans le voir complètement. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Également, là on a parlé du fait de voir Allah Azza wa Jal, mais concernant le ilm, le fait de connaître réellement sa force, sa puissance, ce qu'Allah nous a donné c'est infiniment petit et ça correspond à ce que l'homme peut comprendre. Et tout ce que l'homme ne peut pas comprendre, peut-être certaines choses, l'être humain va comprendre le jour de Qiyam. Maintenant, là, on s'était arrêté là, il me semble. Maintenant, on va voir les fawa'id. Qu'est-ce qu'une connaissance approfondie concernant, à propos de la puissance d'Allah, de la grandeur d'Allah, qu'est-ce que cela nous apporte au quotidien dans notre relation avec Allah Azza wa Jal? Premièrement, les savants expliquent que pour connaître la place d'Allah dans ton cœur, il faut voir ta soumission à lui. On reprend. Pour qu'un être humain réalise quelle place, ce sont des mots d'être humain, d'accord? Quelle est la place qu'Allah occupe dans mon cœur? C'est-à-dire, comment est-ce que je considère Allah? Quelle attention je porte à mon Seigneur? Cela se traduit directement à travers nos a'mal, à travers nos actions. Maintenant, si on veut que réellement on fait le qadr, comme on dit, fait le qadr, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, mais qu'on arrive à comprendre la valeur de notre Seigneur, cela transite obligatoirement par le ilm, par la connaissance. Cela transite obligatoirement par la connaissance. Les savants disent ala qadri al-ma'rifati yakunu ta'zimu rabbi ta'ala fil qalbi. Plus un croyant va connaître son Seigneur, plus il aura de l'attachement pour Allah dans son cœur. Plus une personne va connaître Allah, plus Allah aura une place dans son cœur. Et si Allah Rabbul Izzah a une place dans notre cœur, on lui consacrera notre temps, on lui consacrera nos biens, on lui consacrera notre vie. قل إن الصلاة ونسكي ومحياي Maintenant, si on ne connaît rien d'Allah Azza wa Jal, juste que c'est notre Dieu et il faut l'adorer, autrement il nous punit. Si ça se limite à ça, comment voulez-vous qu'Allah Rabbul Azza occupe l'intégralité de l'espace qu'il y a dans notre cœur? Comment voulez-vous qu'on ait vraiment un amour débordant pour Allah et une crainte envahissante, ce qui est nécessaire, d'Allah de notre cœur? Donc tout transite par connaître Allah Azza wa Jal. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى. Cinq verbes qui étaient cités par As-Sa'di rahimahullah, le célèbre tafsir Taysir al-Karim al-Rahman. Il a dit Allah qui est le très haut, le clément, le magnifique, celui qui est grand, c'est lui qui mérite qu'on le considère vraiment selon sa grandeur, et qu'on l'aime plus que tout au monde, bien sûr qu'on lui voue le culte de toute notre vie, et qu'on ait réellement la crainte, et qu'on ait l'espoir en lui. Tout ça, ces cinq bases-là, c'est les bases de notre relation intérieure avec Allah. Et attention, quand on dit relation intérieure avec Allah, une personne peut parfaitement accomplir ces cinq piliers sans qu'il y ait dans son cœur une relation avec Allah. Et là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'une personne peut, enchaîner les hajj, enchaîner les umrah. Une personne peut faire un khatm al-Qur'an par semaine, peut officier la salat al-Tarawih, peut faire autant de dhikrullah, peut apprendre la connaissance. Mais la personne, intérieurement, n'a aucune relation directe avec Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est khasara. Pas khasara qu'on a tout perdu, mais c'est dommage. Parce que l'effort et le temps qu'on consacre pour le culte, ben, on n'arrive pas à en tirer profit correctement. Je répète encore ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 qualités qui ont été citées par le Salam Mufassir, qui est un contemporain, As-Sa'di Rahimahullah, dont le tafsir a été traduit en français, qui est disponible, Tafsir Al-Karim Al-Rahman, en 2 volumes, un excellent tafsir, qui est un juste milieu entre Ibn Kathir et la traduction. Un tafsir beaucoup plus accessible, beaucoup moins complexe que Ibn Kathir, mais c'est du bonheur, c'est un plaisir. Il y a des fois où quand on bloque d'Ibn Kathir, il y a des points qu'on n'arrive pas à déchiffrer parce que c'est très lourd Ibn Kathir, la version originale. On passe à Taysir al-Karim al-Rahman et ce sont des petites clés qui nous donnent un plus grand accès au verset. Donc c'est un tafsir qui est totalement adapté au public francophone. Donc ce que Cheikh As-Sa'di rahimahullah, il cite comme qualité intérieure, ta'zimullah, qu'on réalise la grandeur d'Allah. Et ça doit habiter notre cœur. Hubbullah, il le cite au majhoul, yuhab, mais c'est hubbullah, que dans notre cœur, on aime Allah Azza wa Jal. Wa yu'bad, et quand il dit yu'bad, c'est la soumission. Adorer Allah parce que al-ibadah huwa at-tazallul wal-khudu', la soumission, que quand tu accomplis la bonne action, tu sens que tu es en train de te soumettre à Allah. Quand tu t'éloignes du péché, ce n'est pas juste un code moral ou une éthique ou une culture que chez nous, chez les Gujaratis, chez les Punjabis, chez les Comoriens ou chez les Indiens, on ne consomme pas d'alcool. C'est pas ça du tout. C'est que je ne le fais pas parce que je me soumets à Allah, parce que j'ai promis à Allah Azza wa Jal de me soumettre à lui. On prend un exemple qui n'est pas aussi décalé parce que ça s'approche. Quand on dit Allahumma inni asumu radan, c'est quoi la suite? Laka. Pour qui? Pour Allah. Allahumma inni asumu radan laka. Après on demande faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Quand on demande Allahumma inni asumu radan laka, inni asumu, tu es en train de signer, tu es en train de te faire un engagement avec Allah pour la journée. Tu t'engages à respecter les limites, les règles du somme. C'est pour ça que le somme, le jeûne, c'est un ibadah qui est exceptionnel parce que tous les matins, on va dire plutôt tous les soirs, dans le dernier tiers de la nuit, le croyant renouvelle son engagement envers Allah. Oh Allah, c'est comme si il dit, oh Allah, je te promets de ne pas manger, je te promets de ne pas boire, je te promets de m'éloigner de tout ce qui annule le jeûne pour toi. Et voilà. Pour qui? Laka. C'est pas juste, c'est une éthique, c'est pas une philosophie, c'est pas un mode de vie, c'est pas une spiritualité, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une culture, c'est du culte, c'est de la soumission à Allah. Inni asumu radan laka. Et pareil, wa yu'bad, à travers nos bonnes actions, on ressent qu'on est en train de se soumettre à Allah. À travers l'éloignement des interdits, on réalise que j'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé aller au même endroit que mes amis, ils vont le samedi soir ou boire ce qu'ils boivent, ou m'amuser comme eux, ou autre chose, d'accord? J'aurais aimé que quand je vais acheter une voiture neuve, je vais au coin de la rue, je vais voir la banque et je fais un emprunt avec 3% d'intérêt et je peux rembourser sur 10 ans avec grande facilité. J'aurais aimé posséder, avoir plein de choses comme ceux qui empruntent de l'argent, mais je ne le fais pas. L'aka pour Allah. Ça, c'est une relation intérieure et c'est à nous de le forcer. C'est à nous de le réveiller pour donner un sens au ibad. Wa yurja, cinquième qualité de a'mal al-qulub, wa yurja, d'avoir l'espoir en lui. Toujours espoir en Allah. Quand on s'est trompé, on a fait des erreurs, on a espoir qu'Allah va m'accepter. Quand on a fait une action, mais on sent que c'était pas top. J'ai fait la salat al-isha, mais il n'y avait pas trop de concentration. On a espoir, ben Allah m'acceptera quand même. On demande à Allah, accepte. Ou Allah donne-moi la possibilité de faire encore, de faire mieux. Avoir toujours un husnul dhan, une pensée positive d'Allah Azza wa Jal. Mais que dire maintenant de la personne qui enchaîne les bonnes actions, étape après étape, sans jamais ressentir l'amour d'Allah dans son cœur? Comme c'est dommage. Une personne qui va se donner à fond Ramadan, et dès que Ramadan est terminé, il passe du jeûne au bœuf directement. Prochain objectif, c'est aller à la plaine des caves, de bœuf et tout. C'est-à-dire, on est dans une spirale où on enchaîne, mais est-ce qu'on ressent l'amour pour Allah? Est-ce qu'on ressent le ta'zimullah? Est-ce qu'on ressent la crainte d'Allah? Est-ce qu'on développe l'espoir en Allah? C'est tout ça qui fait vivre les cœurs. C'est ce qu'on appelle a'malul quloub. Et les actions extérieures, c'est a'malul jawarih, les actions qu'on accomplit avec les membres. Hada. Autre point, autre qualité qu'on va obtenir lorsqu'on va réaliser la grandeur d'Allah Azza wa Jal, an yuttaqa haqqa tuqatihi, fayuta' fala yu'sa, wa yudhkar fala yunsa, wa yushkar fala yukfar. Wow. Encore quatre phrases exceptionnelles. Tout ça, c'est, on est de le tezkiya. On est de la purification intérieure. C'est des paroles en or. C'est-à-dire que la personne qui a réalisé, qui est arrivé à ce grade, à ce stade, où il a compris qu'Allah est au-dessus de lui, il a compris de ce qu'on a cité les six ou sept points d'avant concernant la grandeur d'Allah, ben la personne, il va avoir la crainte d'Allah, haqqa tuqati, comme le stipule le verset, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati. On doit avoir la crainte d'Allah réellement, pas la traduction exacte, mais réellement comme Allah le mérite, comme il se doit, comme on doit craindre Allah Azza wa Jal, et qui est une crainte qui est totalement différente de la crainte qu'on peut avoir pour d'autres choses. Pour les autres choses, pour les créatures, on appelle ça la peur. Peur d'une maladie, peur d'une personne, peur des problèmes, peur des conséquences, peur de faire un accident, parce que c'est quelque chose de mal qui peut nous percuter et nous détruire. Mais concernant Allah Azza wa Jal, c'est pas vraiment le terme peur, mais c'est la crainte. Et quand on parle de crainte, de taqwa, en fait, les termes en français ne traduisent pas réellement le sens de la langue arabe. Quand on parle de taqwa, il y a la crainte, mais c'est une crainte mélangée avec de l'amour. L'amour d'Allah, c'est une crainte mélangée avec de la haya. Haya, c'est quoi? La honte, la pudeur. Tu as honte qu'Allah te voit dans telle situation. Quand un moumine, quand un croyant, il commence un péché, il va dans un endroit haram, il doit se dire, il doit réaliser que à cet instant, et chaque seconde qui passe, Allah me voit. Oui ou non? Allah me voit dans le haram. Et le moumine doit avoir honte. Il doit avoir cette pudeur, al-haya min Allah. Ça, ce sont des qualités de foi. Et c'est ce genre de qualité qui te permet à chaque fois de revenir vers le droit chemin. Mais il est inconcevable et impossible qu'une personne puisse avoir la taqwa haqqa tuqatihi sans connaître la grandeur d'Allah. Parce que tant que tu ne réalises pas la grandeur d'Allah, on ne réalisera pas pourquoi il faut avoir autant de crainte, d'estime et d'amour pour Allah Azza wa Jal. C'est la clé. C'est peut-être la quatrième fois qu'on répète ça. On ne se répète pas, mais on véhicule le message le plus fort. Ta'zimullah, c'est la clé de la réussite de l'ibad. C'est la clé de la résistance face au péché. C'est la clé de la patience dans les épreuves, dans les difficultés. C'est ce qui te permet de t'accrocher jusqu'à ce que ce dunya se termine et que tu rencontres Allah Azza wa Jal. Donc, première qualité que tu vas obtenir, ça c'est dans le deuxième point, un yuttaqa. حَقَّةُ قَاتِلِ On vient d'expliquer. On a essayé d'expliquer. Deuxièmement, فَيُطَاعَ فَلَا يُعْصَى Et que réellement, tu réaliseras que tu dois obéir à Allah. Et qu'on ne peut pas se permettre une seule fois de notre vie de désobéir à Allah Azza wa Jalla. Et si par mégarde, si par inadvertance, par erreur ou par faiblesse de foi, on a désobéi à Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'on fait immédiatement ? Le tawba. Mais le tawba, c'est se précipiter. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ Et qu'est-ce qu'ils font tout de suite après ? فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Ça, c'est qualité de foi. Parce qu'il n'existe pas un homme qui reste, qui est parfait du début jusqu'à la fin. Ça, c'est les qualités des anbiya. Nous restons des hommes. Dans le cas où, dans l'éventualité où on s'est trompé, où on a désobéi à Allah Azza wa Jal, même celui qui suit son nafs, il le fait par faiblesse. Et donc là, immédiatement, retournez vers Allah. Parce que Allah, c'est celui qui, yulta' fala yu'ansa, qu'on doit absolument obéir et qu'il est inconcevable de le désobéir. Wa yudhkar fala yunsa abadan. Je rajoutais abadan. Et que tu penses toujours à lui et jamais oublier Allah Azza wa Jal. Il est inconcevable qu'un cœur se détache longtemps d'Allah Azza wa Jal, même si on est pris dans notre travail, même si on est en train de faire un traitement sur ordinateur, on est en train de, quel que soit le travail, je suis en train de monter un mur, ou en train de faire un gâteau, ou en train de faire un carré, peu importe, le mu'min ne doit jamais laisser des secondes s'enchaîner sans que dans son cœur il y a un peu de dhikr. Bismillah, astaghfirullah. Il faut que ça revienne. Et quand est-ce qu'on arrivera à ce degré, à ce stade, quand vous avez tous lu l'histoire des sahaba, que lorsque, dans cet récit, il est cité que lorsqu'ils allaient au hammam, au baytul khala, aux toilettes, d'accord, ils devaient se retenir pour ne pas faire le dhikrullah. Pourquoi est-ce que le dhikrullah était devenu quelque chose d'automatique, d'instinctif chez eux, depuis qu'ils se réveillent jusqu'à ce qu'ils se couchent? Parce que de ce cœur-là, il y a la grandeur d'Allah. Et cette grandeur d'Allah a pris une telle place dans le cœur qu'ils ne peuvent concevoir laisser passer une seconde de ce monde sans renforcer et sans faire les louanges d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le natija de ta'zim Allah. Yuta' fala yu'asa, wa yudhkar fala yunsa. Et quatrième qualité, wa yushkar fala yukfar. Être reconnaissant et ne jamais faire preuve d'ingratitude. Être reconnaissant pour tout ce qu'Allah nous a accordé et ne jamais faire preuve d'ingratitude. Ce sont là des qualités qu'on pourra développer lorsque on aura travaillé, on aura compris, on aura médité sur la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Ça fait deux. Troisième avantage immédiat de ta'zim Allah. Wa ibadatu haqq al-ibada. Non, on prend de quoi la citation. Et que la personne qui a réalisé la grandeur d'Allah, ses adorations, ben il le fera haqq al-ibad. Lorsque, ça rejoint ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, lorsqu'il va faire le ibada, ça ne sera jamais avec rafla. Rafla, c'est quoi? L'insouciance. Qu'Allah nous protège d'un cœur rafil. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous pardonne. Je pense qu'il faut commencer à dire qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous permette de nous purifier intérieurement pour ne plus être cette personne qui, derrière l'imam, il dit Allahu Akbar, et lorsque l'imam commence, il s'en va. Il s'en va où? Dans ses pensées, dans ses rêves. L'imam, quelle que soit la lecture, qu'il lise un verset qui décrit le Jahannam, de le Qiyam, le Jannah, ainsi de suite, peu importe pour lui. Parce que quand la salat commence, la personne est partie de ses rêves, il est partie de ses films, il est partie de ses séries, il est partie de ses matchs, il est partie de son travail, de son stock, de son inventaire, dans son menu de la semaine, dans son programme informatique, dans sa voiture, dans ses réparations. Parce que nous restons des êtres humains. Les enfants qui doivent faire vaccin, on doit l'amener chez le pédiatre, on doit l'amener chez le dentiste. Tout ça, ça fait de nous des hommes, oui ou non? Tout ça, ça fait de nous des hommes, mais corrige cet aspect humain pour Allah. Soumission, se soumettre à Allah, c'est enlève tout le côté humain, tout ce qui te ramène vers la nature humaine pour Allah. Ben quand tu jeûnes, c'est parmi ces trois actions, les deux qui font partie de la nature de chaque créature. On ne parle plus d'être humain, manger et boire. même si certains en ont fait une religion, mais manger, boire qui reste quelque chose de vital, tu soumets, tu enlèves ces deux caractéristiques des êtres vivants pour Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le sens de la soumission. Donc, quand on dit « un yu'bad haqqa l'ibada », c'est qu'on arrive à l'adorer réellement, comme on doit l'adorer, comme... On ne peut pas dire comme Allah le mérite, Allah mérite. Allah n'attend rien de nous. Mais comme on se doit d'adorer Allah Azza wa Jal, on va dire comme le prophète alayhi salat wa salam, comme les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in, ils faisaient leur salat, ils faisaient le dhikrullah, ils faisaient leur lecture du Coran avec cette dévotion, cette concentration. Parmi les petits signes de Qiyamah, le prophète a annoncé que parmi les premières qualités spirituelles qui vont disparaître de la Umma, si on le répète tout le temps, c'est Al-Khushu'a. La dévotion de la salat. Hatta takadu. Viendra une époque où vous. Le hadith dit on entre dans une mosquée et dans une jama'a de 100 ou 200 personnes, il n'y a pas un cœur khashi'a. Il n'y a pas un cœur qui ressent de la dévotion dans la prière. Ça, c'est vraiment les qualités les plus fortes. Comment arriver au khushu'? Comment arriver à la concentration, à la dévotion, à la conviction d'aller du'a? Je ne sais pas qui c'est qui avait dit ça. C'était Omar ou alors. Un contemporain, ça ne me revient pas, dit que si tu veux analyser à l'instant T, aujourd'hui mardi, analyse quel est ta relation avec Allah, quel, c'est des termes d'être humain, qu'Allah nous pardonne, quelle place Allah occupe dans ton cœur, regarde le temps que tu as consacré dans les doigts. Et regarde la concentration qui était la tienne dans ces doigts. Non, c'est un doigt, tac, tac, on va le doigt d'ailleurs pour les gens à droite à gauche, ça c'est pas doigt. Le doigt, c'est vraiment s'en remettre à Allah. Ad-du'a, c'est pas pour rien que le prophète dit ad-du'a qui complète huwa al-ibada. Les invocations, c'est l'acte d'adoration par excellence. C'est-à-dire que là, il y a toi et Allah, bas. Toi, tu es le makhlouq et tu sais que tu t'adresses au khaliq. Toi, tu réalises que tu ne peux rien. Tu ne bouges pas le petit doigt sans l'ordre d'Allah, sans le destin. Et que lui, Allah Azza wa Jal, c'est kun fayakun. C'est celui qui décrète, qui décide, qui crée et qui organise. Et donc, tu te livres à lui. C'est celui qui connaît tes peines, tes faiblesses et tes attentes et qui t'a créé, qui a créé les situations qui ont tissé ta vie. Et tu montres à Allah, voilà ma vie, elle est comme ça. Et Allah améliore ma vie. Mais si on le fait avec conviction, on passerait... longtemps, j'allais dire des heures, mais on va rester avec un peu plus d'humilité, mais on donnerait beaucoup de temps de nos doigts. Parce que c'est le ibadah par excellence. Comment est-ce possible qu'on passe une journée sans demander doigts? Comment est-ce possible qu'un musulman laisse passer une journée sans remettre Allah Azza wa Jal dans les doigts, sans se plaindre à Allah Azza wa Jal, sans se confier à Allah Azza wa Jal, sans lui demander, sans lui exprimer nos attentes, nos angoisses, nos craintes. Ça, c'est une relation intérieure qu'on peut faire. Et le meilleur moment pour le faire, qui serait le plus productif, ce serait vraiment le dernier tiers de la nuit, lors du tahajjud, qu'Allah Rabbul Izzah, dans sa clémence, qu'Allah ne regarde pas nos erreurs, mais qu'Allah, dans sa clémence, nous donne la possibilité de vivre ces moments dès maintenant. Et si maintenant c'est un peu difficile, mais au moins durant le mois béni de Ramadan qui arrive, on fait le niyyah dès maintenant. Là, on va, bidnillah, commencer à travailler un petit peu nos résolutions pour le mois de Ramadan. Résolution numéro 1, c'est s'il y a 29, c'est 29. S'il y a 30 jours, c'est 30 jours de tahajjud de qiyamul layl. 8 rak'at minimum, avec concentration et dévotion. Inconcevable de rater un tahajjud durant le mois béni, parce que le tahajjud, le dernier tiers de la nuit, c'est exceptionnel toute l'année, mais durant le mois béni, subhanallah, c'est un autre niveau. Donc, celui qui a intégré la grandeur d'Allah, il arrivera à faire l'adoration d'Allah. حق العبادة هذا. Quatrième point, il nous reste combien de temps? Il nous reste une minute. C'est encore un peu long. On fait un dernier point, Inch'Allah. عدم النظر إلى كبر الذنب أو صغره في نفس العبد ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية. Qu'est-ce qui a dit ça? Un livre de Adda ou Addawal rapporté par Al-Hakim. Tout ça, on a là des citations. Ça, c'est Tibb al-Qulub, c'est la médecine du cœur. Là, on est en plein de la tazkiya, de la purification intérieure, ce qui faisait partie de la mission prophétique. Donc, ce savant, il explique que quand le croyant a intégré, il essaie de comprendre, de connaître la grandeur d'Allah et que cela pénètre son cœur. Jamais il ne va analyser le péché en disant que ça c'est peut-être un petit péché, ça c'est un péché grave, ça je ne peux pas le faire, mais ça c'est moins grave, ça je peux le faire. Ce genre de réaction qui est souvent une réaction humaine. Combien de fois il nous est arrivé en voyage ou autre chose de rater une salat et on se dit que c'est une seule fois. C'est une seule fois. Toute l'année je prie. Si là de l'avion j'arrive pas à faire les ablutions dans le petit espace de wuzou, ou alors j'ai honte d'aller dans une salle, et ainsi de suite. Non, ben, Aleph et Maf. Ça c'est l'arme ultime, ça. Aleph et Maf. Aleph et pardon, connaît ce qu'on a dans le cœur. Dire qu'à partir du moment où on arrive à une situation où on va analyser la gravité des péchés, c'est qu'on est mal spirituellement. Les sahaba, ils avaient dit aux générations après les tabi'in, ça c'est dans Riyad al-Salihin, les sahaba avaient dit aux tabi'in que vous, c'est-à-dire les tabi'in, vous accomplissez des actions, des péchés que vous considérez comme étant des péchés mineurs, alors que nous à notre époque on les considérait comme étant des kaba'ir al-dhunub. Que diraient les sahaba si nous voyons Allah musta'an? Donc le mu'min ne doit jamais analyser la nature ou la gravité. Il n'y a même pas cet adjectif gravité au nom du péché. Il n'y a même pas besoin de l'annexer au terme péché. Du moment que c'est ma'asiyah, c'est ma'asiyah. Le mu'min ne peut pas se permettre de rester dans une situation où il désobéit Allah Azza wa Jal, où Allah est mécontent de lui. Sa grande hantise, c'est quoi? Imagine qu'à cet instant, l'ange de la mort reprend mon ruh. Ça veut dire mourir avec sous le khatima. Ça, c'est la pire des choses qu'Allah nous protège. Donc, ce qu'il dit, quatrième faïda, عَدْمُ النَّظَرِ إِلَىٰ كِبَرِ الذَّنْبِ أَوْ صِغَرِهِ. Ne jamais analyser un péché. Est-ce que c'est un péché mineur ou un péché majeur? Mais au contraire, et c'est là la phrase, c'est là le punchline spirituel. وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قَدْرِ مَنْ عَصَىٰ. Regarde plutôt qui tu as désobéi. Ne regarde pas la nature du péché. Ne regarde pas la fréquence du péché. C'est une fois de temps. Non. Regarde qui tu es en train de désobéir et réalise que c'est inacceptable et que c'est inconcevable. Et pense à Israfil alayhi salam. Dans les hadiths, le prophète nous a décrit que l'ange Israfil, celui qui va souffler dans la corne, il a cette corne près de sa bouche, comme cela. Comme il est décrit, dans les hadiths concernant les anges, et les yeux rivés vers le trône d'Allah, et il a peur. Il a peur qu'il y ait une seconde d'inattention, et qu'Allah ordonne qu'il souffle dans As-Sour. Rappelez-vous de ce hadith que le prophète a dit, ce qu'on a dit en introduction, qu'Allah a créé des malaïkas depuis le début de la création, ils sont en sijda, et ils restent en prosternation jusqu'à ce que l'ange Sraphil souffle dans As-Sour, et là ils se lèvent, ils disent que Ya Allah, ma abadnaka haqqa ibadatik, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Imagine, analyse, réalise toutes ces créatures qui adorent Allah Azza wa Jal et qui ont peur, qui tremblent de leur adoration. Et comment nous on fait preuve de rafla? Comment est-ce qu'il y a des fois où on s'enterre nous-mêmes, on se précipite nous-mêmes vers le Jahannam jour après jour, si ce n'est la rahmat d'Allah qui nous rattrape, qui nous repêche, qui nous récupère à travers les ablutions, à travers l'enchaînement des prières, à travers toutes ces bonnes actions, qu'Allah nous donne la possibilité de revenir vers lui. On va conclure, je pense, il reste encore le point, il y a encore quelques points, donc ça, on ne peut pas bâcler. C'est tellement important spirituellement. Là, on est, comme on a dit, on est vraiment dans des points qui touchent la thèse qui est la purification intérieure, pour que dedans, on enlève le bout de dunya, on enlève l'attachement pour nos pulsions, nos passions, et qu'on fait entrer la grandeur d'Allah pour que cela dirige et oriente nos vies. On va conclure par un hadith, juste pour vous démoraliser. Et on se sépare là-dessus. Le prophète me dit d'un hadith rapporté par Utba ibn Abdin radiallahu anhu. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة حديث rapporté par Imam Ahmed dans le dans le Mousnad. Il dit que si, ça c'est vraiment une situation hypothétique qui n'existe pas, mais le problème dit que si une personne se mettait en adoration d'Allah depuis le premier jour de sa naissance, il faisait tout pour rester dans l'adoration depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et qu'il l'a réussi. Il est resté toute sa vie dans l'adoration d'Allah, min yawmi wulida ila yawmi yamut. Et il a dit que la haqqarahu yawm al-qiyamah, le jour de qiyamah, il verra, ou il verrait plutôt, que toute cette ibadah, ben, ce n'est pas grand chose par rapport à notre engagement, ce que nous devons entre guillemets Allah Azza wa Jal, et que si ce n'est pas la clémence d'Allah, ben, personne ne pourra accéder au paradis ni être protégé de l'enfer. Pourquoi ce hadith, cette situation hypothétique, pour qu'on perde confiance en notre piété, pour qu'on arrête de se reposer sur nos lauriers, sur nos titres, sur le nom de notre famille, sur le cumul spirituel éventuel qu'on a, sur l'histoire, notre histoire de la religion. On arrête de penser qu'on est dans le vrai. On arrête de penser que c'est nous-mêmes qui connaissons mieux que tout, qu'on est dans le droit chemin, que c'est sûr, que c'est parti, que si l'ange de la mort vient maintenant, moi je vais faire Firdaus al-A'la min al-Jannah avec Abu Bakr al-Siddiq et Umar ibn al-Khattab. Tu es malade de penser comme ça. Parce qu'en pensant comme ça, Shaitan il aime te voir te complaire dans cette situation. Parce que quand l'être humain il se complaît dans cette situation, il ne cherche plus à progresser, avancer. On est en train de dépasser le temps. Dans le Coran, l'Iman Shah, Amin Kouman Yataqaddam, Aou Yataqar. Et les Mufassirins disent que Famal Lam Yataqaddam, Fakat Ta'akhar. Celui qui n'avance pas, mais il recule. Et dans certains textes, il est décrit que pour les sahabas, la pire des choses, c'est de terminer une journée sans avoir progressé spirituellement. Que aujourd'hui est semblable à hier, spirituellement, de la relation avec Allah. Pour eux, c'était un échec. Chaque jour, on doit progresser, on doit avancer. Pourquoi est-ce qu'on va conclure ce hadith? Pour qu'on réalise qu'on a besoin de se remettre en question. Même si on a de bonnes habitudes concernant la fréquentation de la masjid, concernant la lecture du Coran, éventuellement la mémorisation du Coran, des qualités, mashallah, tawfiq min Allah, on remet sur Allah Azza wa Jal, on doit continuer à avancer. Et continuer à avancer spirituellement à travers le ilm. Le Coran est un trésor. Bien malheureux, celui qui l'ouvre, qui lit, qui le referme, sans jamais creuser, sans jamais aller voir qu'est-ce qu'Allah me dit après tous ces ya ayyuhal ladhina amanu. Il y a combien de ya ayyuhal ladhina amanu dans le Coran? Fais une recherche la prochaine fois. Sera noté sur 20, inshallah. Après tous ces ya ayyuhal ladhina amanu, mais qu'est-ce qu'Allah nous demande? Oh, vous qui avez la foi, qu'est-ce qu'Allah demande? Qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Jusqu'à quand? Comme dirait l'autre. Jusqu'à quand est-ce qu'on va rester dans une pratique mécanique? Jusqu'à quand on va répéter un gestuel sans qu'il y ait... Comment vous voulez que la dévotion et que le iman augmente si on ne fait que répéter sans augmenter? Alors que le Coran est une source spirituelle inépuisable. Vous pouvez lire le tafsir de l'Fatiha tous les jours. Jusqu'à la mort, on trouvera tous les jours un faïda, parce que la parole d'Allah, c'est une qualité d'Allah. Ça, c'est kalamullah, et c'est kalamullah chez nous, avec nous, alors qu'on ne le mérite pas. Et celui qui arrive à s'imprégner de la parole d'Allah, c'est lui qui avance tous les jours, son iman augmente, la qualité de ses amal augmente. Donc on progresse, on a besoin de progresser par le biais du Coran et par l'étude des noms d'Allah pour connaître qui est notre Seigneur, pour mieux l'adorer. Qu'Allah nous accepte. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair. Thank you.